Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, que reflètent les gilets jaunes? Elle s'appelle Jacqueline Mourot. Elle est bretonne, automobiliste, et elle vient d'accéder à un niveau de notoriété fulgurant grâce à une vidéo postée sur les réseaux sociaux. En un peu plus de 4 minutes, elle dit tout le mal qu'elle pense de la politique du gouvernement, notamment s'agissant de la hausse des prix du carburant. Le mouvement des Gilets jaunes a trouvé son égérie. Elle s'appelle Jacqueline Gourault. Elle est ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Et la voilà donc en première ligne pour affronter cette fronde fiscale des Gilets jaunes, dans la mesure où celle-ci s'appuie sur la dénonciation d'une injustice territoriale, celle vécue par la France rurale et périphérique, où les habitants n'auraient pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture dans leurs déplacements. Quand le prix de l'essence augmente, ce sont eux qui, en priorité, disent subir cette augmentation. Alors cette perception ne résiste pas entièrement à l'épreuve des faits, mais elle s'impose comme grille de lecture essentielle de ce mouvement, qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. Alors que reflètent les Gilets jaunes? C'est la question du soir, en compagnie de trois invités. Violaine Girard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'Université de Rouen, membre du laboratoire des dynamiques sociales, et vous avez publié l'an dernier aux éditions du Croquant « Le vote FN au village, trajectoire de ménage populaire du périurbain », pour avoir la dénomination exacte. Pour discuter avec vous ce soir, Olivier Razemont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous travaillez notamment pour Le Monde, où vous tenez un blog consacré en particulier au transport. Et vous, votre ouvrage a été publié rue de l'Échiquier, c'était en 2016. Comment la France a tué ses villes? Et puis notre troisième invité, il est en duplex de Suisse à Lausanne, il s'agit de Jean-Nicolas Fauchy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes urbaniste et chercheur en sciences sociales de l'espace, ce qui doit plus ou moins correspondre à la définition du géographe ici en France, membre du laboratoire Coros, et vous êtes le co-auteur avec Anna Povoas et Jacques Lévy chez Odile Jacob, ça vient de sortir, de Théorie de la justice spatiale, géographie du juste et de l'injuste. Alors l'injustice, ça sera sans doute un des sujets dont nous allons parler ce soir pour essayer de qualifier ce mouvement des Gilets jaunes, dont on ne peut pas préjuger du succès, en tout cas qui sera celui de la manifestation à laquelle sont appelés les Français le 17 novembre prochain, même s'il y a quand même des indicateurs qui indiquent une forte mobilisation, puisque l'appel est très relayé sur les réseaux sociaux, comme par exemple cette chanson postée vendredi dernier.
Peuple de France, vous êtes témoin, nos économies vont beaucoup moins bien. Sur nos comptes, y a que des zéros. C'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on paye trop. Y a pas que l'essence qui a augmenté. La carte grise, l'électricité. Même si les jeunes s'en foutent un peu, qui réalisent qu'on fait ça pour eux. En ce jour de fête, bloquer toutes les voies. Rendez-vous le 17 pour exprimer tout ça. Y'a pas que le ballon rond qui fédère, tu vois. Juste dire au patron qu'on veut moins payer.
Voilà, alors l'auteur de cette belle chanson s'appelle Anthony Joubert. On peut retrouver donc cette chanson sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube. Alors je ne vais pas vous demander de commenter la qualité musicale, hein, ni peut-être littéraire de ce texte. Simplement sur le fait, c'est une des illustrations. Il y en a beaucoup d'autres, hein, finalement, de ces appels qui inondent aujourd'hui les réseaux sociaux par rapport à la manifestation du 17 novembre. Le fait que cette mobilisation ait pour détonateur le prix de l'essence, est-ce que vous considérez les uns et les autres que c'est quelque chose de surprenant ou bien est-ce que ça n'a rien d'étonnant, Olivier Razemont?
Non, le débat arrive maintenant parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est relativement fédérateur. Enfin, moi quand je vois cette vidéo, j'ai envie d'hurler, hein, très franchement. J'ai une rhinopharyngite aujourd'hui. Moi je vais m'en sortir, il n'y a aucun problème, je suis en bonne santé. Mais il y a des tas d'enfants qui meurent tous les ans parce qu'ils subissent la pollution. Il y a le réchauffement climatique qu'on connaît et tout le monde, personne ne le conteste d'ailleurs, ce qui est assez remarquable d'ailleurs au passage. Le fait de surutiliser la voiture individuelle pour tous les trajets aboutit à des aberrations. C'est-à-dire, ça fait du bruit, il y a une insécurité routière. Alors, moi aussi, je pourrais crier à l'injustice de cette façon. Bon, une fois que j'ai dit ça, bon, je peux aussi crier contre d'autres choses, et en particulier contre la manière dont le gouvernement fait. Mais pour revenir à votre question sur la question de l'essence, pourquoi ça vient aujourd'hui? Alors, moi, je suis assez content, en fait, qu'il y ait finalement.
En tout cas, pourquoi ça vient sur ce thème-là?
Sur ce thème-là, je pense que c'est effectivement, pour une partie des gens, ils ont l'impression, on le voit d'ailleurs, y compris dans la vidéo de Jacqueline Mouraud, elle mélange beaucoup de choses, elle dit des choses complètement fausses et des choses qui sont ressenties comme vraies aussi par une partie des gens, parce que elle exprime en fait une espèce de le truc qui est très 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 général en France, qui est en gros on nous prend pour des imbéciles. Et d'une certaine façon, alors elle est, moi je conteste totalement le fond, mais d'une certaine façon elle a un peu raison, parce qu'effectivement une partie seulement de l'augmentation du prix de l'essence, du prix de l'essence va être réaffecté à la transition écologique, alors qu'il y a seulement 20%, donc c'est pas beaucoup. Et puis par ailleurs, elle oublie complètement que l'essentiel de l'augmentation du prix de l'essence, c'est quand même l'augmentation du pétrole et pas l'augmentation des taxes.
Oui, sauf que peu importe, peut-être pour ceux qui subissent cette hausse, elle n'est pas uniquement fantasmée, elle est bien réelle. Le prix de l'essence le supère. Plus 15% en un an, celui du diesel 23%, l'essence, la voiture, les déplacements, Violaine Girard, en termes justement de capacité à mobiliser une grogne sociale, ce sont des éléments justement qui sont importants.
Alors moi j'ai pas travaillé directement, par exemple il y a des sociologues qui ont travaillé sur les budgets de ménage, les postes de dépenses, etc. On sait que par exemple les distances de transport par la route sont plus élevées pour les ménages qui vivent dans les espaces, puisque votre question revenait aussi sur ça, enfin cette mobilise aussi sur en gros ceux qui n'auraient pas d'autre choix dans le périurbain ou dans la France dite périphérique que de se déplacer avec leur voiture individuelle. Donc on sait que par exemple la part de l'énergie dans le budget des ménages, elle est plus élevée dans le périurbain et dans les espaces à dominante rurale. En moyenne, en France, j'ai retrouvé un article qui cite des chiffres. Donc, c'est 8% de la consommation des ménages en 2006. Enfin, 8% l'énergie dans les budgets des ménages, mais c'est 10% dans le périurbain et 11% dans le rural. Donc, effectivement, il y a des disparités territoriales. Ensuite, c'est vrai que c'est un mot d'ordre qui semble assez fédérateur, au-delà des différences sociales. Donc je pense que c'est ça qui en fait son succès. Ensuite, moi, je m'interroge. Alors là, c'est vraiment une question sur les entrepreneurs de mobilisation. Qui sont ces gens qui ont lancé cette mobilisation, qui ont lancé ces mots d'ordre? On sait, par exemple, il y a eu une étude d'une sociologue politique qui s'appelle Marion Rabier sur les bonnets rouges et qui avait montré qu'il y avait des savoir-faire portés par les milieux patronaux en Bretagne.
Voilà, il faut souvenir, les bonnets rouges, c'était il y a 2 ou 3 ans, ouais, exactement, contre l'écotaxe. 2013, le temps passe vite, exactement.
Des choses sur, je ne sais plus, j'avais noté la date. En 2014, il y a eu des mobilisations qui ont démarré contre l'écotaxe. Et donc, cette chercheuse montrait que, dans un article paru dans la revue Agone, que ce qui avait permis de fédérer aussi largement, c'était d'abord des mots d'ordre un peu identitaires. On est breton, etc. On défend le territoire au-delà des différences sociales. Mais c'était aussi tout un savoir-faire communicationnel, en gros, un répertoire d'action assez nouveau, des formes de blocage. On bloque les routes, mais des moyens de communication assez importants par les milieux patronaux.
Alors, il y a sans doute un savoir-faire important, mais il y a aussi un thème qui est sans doute également porteur, Jean-Nicolas Fauchy. Les transports, les déplacements, est-ce que c'est un sujet qui est extrêmement fédérateur, parce que peut-être ça participe aussi directement, pas seulement au pouvoir d'achat, mais aussi au mode de vie auquel les Français, en tout cas un certain nombre de Français, sont extrêmement attachés?
Alors oui, effectivement, la mobilité, ou ce qu'on pourrait même considérer comme un droit à la mobilité, est bien sûr un vecteur de davantage de liberté. Simplement, si on a davantage de liberté, on a aussi davantage de responsabilité. Lorsque vous dites que, au fond, les gilets jaunes, ce sont des personnes qui subissent leur déplacement, je réagis nécessairement. Je ne vous dis pas que quelques-uns ne le subissent pas. Je vous dis que, pour l'essentiel, c'est un choix aussi résidentiel. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, en préambule, vous disiez, est-ce que finalement les gilets jaunes sont représentatifs d'inégalités territoriales? Bon, il faut quand même faire un point clair. Aujourd'hui, les redistributions en France, elles sont colossales. C'est-à-dire que on se retrouve avec plus de 56%, 56,4% dans les derniers chiffres du PIB qui est produit, qui est redistribué vers les régions les moins productives. Donc de ce point de vue-là, il y a vraiment, il n'y a pas un abandon des territoires. Enfin, il faut comprendre qu'on avait 15% simplement de redistribution dans les années 50, on est à 56,4% des richesses produites. Donc c'est colossal. Et si vraiment il s'agit d'une réaction à partir des inégalités territoriales, alors qu'est-ce que c'est les inégalités territoriales? Naturellement, elles sont nombreuses. Mais ce que je sous-entends, c'est que ce seraient les inégalités territoriales en termes économiques. Or, où sont les pauvres? Où se trouve la pauvreté en France?
Mais si pour vous, Jean-Nicolas Fauchy,
elle se trouve massivement
Jean-Nicolas
dans l'île.
Jean-Nicolas Fauchy, et peut-être pour ne pas aborder non plus tous les thèmes en une seule fois, mais simplement, si vous considérez que cette perception des inégalités, en tout cas, c'est comme ça aussi qu'est présenté ce mouvement. Donc il faut aussi tenir compte de la façon dont on présente un mouvement, même si à l'examen des faits, ça ne tient peut-être pas totalement. Mais pour quelle raison, du coup, est-ce que ça serait présenté comme ça? Est-ce que ça serait juste une stratégie politique pour faire monter ce mouvement? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que c'est perçu, effectivement, la hausse du prix des carburants comme une injustice?
Ah. En termes de perception, il y a deux choses différentes. Hein. Effectivement, il y a les données. Les données disent plutôt le contraire, mais bon, on peut y revenir dans l'émission. Effectivement, c'est ceux qui vont y perdre le plus, qui vont revendiquer le plus. Ça ne veut pas dire absolument que ce sont les plus démunis. Simplement, ça les impacte plus eux. Simplement, pour l'essentiel, de mon point de vue, ce sont des choix résidentiels, des choix de mobilité ou de faire avec l'espace, hein, ce qu'on appelle les spatialités. C'est pour l'essentiel choisi, et certains n'ont pas le choix, n'ont même pas le choix d'avoir ou de ne pas avoir une voiture. C'est-à-dire que la grande pauvreté, elle n'est pas très impactée par le coût de l'essence, quoi.
Oui, parce qu'on a, quand on est très pauvre, voilà, on n'a pas forcément les moyens d'avoir un véhicule. Olivier Razemont et ensuite Violaine Girard.
Alors, en fait, pour revenir à votre question d'origine, c'est pourquoi l'essence? En fait, l'essence de ce mouvement, c'est le fait qu'on est dans une société du tout voiture, tout simplement. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on continue de considérer que c'est le seul moyen légitime de se déplacer, le seul moyen viable de se déplacer, et on continue. Premièrement, d'organiser l'espace en fonction uniquement de la voiture individuelle. On continue de penser les décisions publiques en imaginant que tout le monde a une voiture. Quand Macron disait il y a un an aux ouvriers, je crois, d'une usine de la Creuse, bah, vous avez qu'à trouver du travail à 30 km de chez vous, il disait pas autre chose. Il disait en gros, bah, en fait, voilà, vous êtes en voiture, c'est très bien et ça ira très bien. Donc on a une sorte de, et donc, ça, du coup, ça, forcément, ça fait résonance. Les gens se trouvent tous concernés par la même cause. Et puis, par ailleurs, il y a aussi une chose, c'est qu'effectivement, d'une part, il y a seulement un quart des, un cinquième de ces taxes qui vont revenir vraiment à la transition écologique. Le gouvernement ne fait rien du tout pour se dire, et Jacqueline Mouraud le dit dans sa vidéo d'ailleurs, au passage, assez justement pour le coup, pour taxer le kérosène. Aujourd'hui, le kérosène des avions n'est pas taxé. Si le gouvernement voulait donner l'impression de finalement dire on s'y met tous ensemble, il dirait ok, ben allons-y, taxons le kérosène ou faisons quelque chose d'international pour taxer le kérosène et le carburant des bateaux qui nous apportent nos petites choses, nos petits jouets qui viennent d'Asie du Sud-Est. Donc là, je pense qu'il y a aussi cette incompréhension là parce qu'ils ont l'impression qu'en gros il n'y a que l'essence qui est concernée en fait.
Violaine Girard, je vous voyais réagir tout à l'heure lorsque Jean-Nicolas Fauchy disait, je ne sais pas si c'était pour l'approuver d'ailleurs. Ou pour le désapprouver, mais que habiter justement à la périphérie ou dans le monde rural, ça relevait, pas exclusivement, mais très souvent, très majoritairement, d'un choix, donc d'une liberté à assumer derrière, bah, quand justement, par exemple, le prix des carburants augmente. Est-ce que vous partagez justement cette analyse?
Alors, je partage pas cette analyse et il y a un certain nombre aussi de travaux de sociologie qui s'inscrivent en faux contre cette analyse. C'est-à-dire que moi, j'ai pu montrer et j'ai pu le voir à partir d'une monographie, c'est-à-dire du cas d'un territoire très concret, que par exemple, la périurbanisation résultait pour beaucoup de politiques publiques. En tout cas, si on parle de choix, ce sont des choix sous forte contrainte. On peut pas parler de choix résidentiel menés en toute liberté. Dans le périurbain...
Qui s'exerce s'exerce de quelle manière ces
Alors,
contraintes
Ces contraintes, elles s'exercent par exemple, le coût du foncier. L'accès, les contraintes, les inégalités sociales en termes d'accès à différents types de logements et également en termes de statut résidentiel, de statut d'occupation du logement. C'est-à-dire, est-ce qu'on a accès à du logement social? Est-ce qu'on a accès à un statut de propriétaire, etc. Alors, on sait très bien qu'en France, depuis la fin des années 70, les politiques publiques encouragent l'accession à la propriété, notamment chez les ménages des fractions stables, les plus stables des catégories populaires. Il y a eu toute une série de mesures pour aider l'accession à la propriété, la diffuser, ce qui a permis de soutenir au passage la construction, le secteur de la construction des maisons individuelles et également le secteur bancaire avec la diffusion des crédits immobiliers dans des catégories populaires qui jusqu'aux années 70 n'y avaient pas accès.
Et cette accession à la propriété, elle est plus facile, en tout cas elle est moins chère dans les zones périurbaines?
Elle est beaucoup moins. En fait, il y a des études statistiques qui montrent que par exemple, les prêts aidés à l'accession à la propriété ont été très... Les prêts à taux zéro aujourd'hui, depuis 1995, sont très massivement utilisés par des ménages qui font construire des maisons individuelles, des pavillons dans des zones périurbaines. Le coût du foncier y est moins cher. À l'inverse, on sait que les ménages de cadres sont très plus souvent, quand ils sont propriétaires, sont plus souvent propriétaires dans les centres-villes. Donc, il y a des inégalités sociales dans l'accès à la propriété, dans le choix du type de logement, dans les localisations résidentielles. Et tout ça, c'est lié à des politiques. Et on peut aussi signaler des politiques publiques qui ont encouragé, là au niveau local cette fois-ci, qui ont encouragé le développement, enfin les recompositions des lieux d'emploi. On sait par exemple que les politiques d'aménagement économique menées par les intercommunalités, avec la création de parcs d'activités, ont aussi redessiné la carte des lieux d'emploi et que la mobilité résidentielle des ménages ne peut pas suivre aussi vite que les réimplantations d'emplois, notamment dans le périurbain. Il y a un certain nombre, on sait peu que l'emploi industriel se développe dans le périurbain et que du coup les ménages, notamment des catégories populaires, alors pas les plus démunis bien sûr, mais les ménages des catégories populaires quand même, des ouvriers, notamment des employés qui travaillent dans le périurbain, doivent s'adapter à ces changements des lieux d'emploi.
Oui, mais encore une question, puis après je vais évidemment repasser la parole à nos autres invités, Jean-Nicolas Fauchy, Olivier Razemont, mais si justement l'emploi et notamment l'emploi industriel se développe aussi dans ces zones périurbaines et que les gens habitent dans ces zones, normalement, il n'y a pas de trajets qui sont censés être suffisamment importants pour qu'une hausse du prix des carburants soit catastrophique.
Sauf qu'il n'y a pas de densité, justement. En fait, c'est n'importe où autour de la ville, pardon.
Encore une fois, c'est un cas concret, l'exemple que je prends. Donc moi, j'ai étudié le développement d'un parc industriel dans le périurbain lyonnais. Ce parc industriel, les chiffres, c'est que il y a plus de 40% des salariés de ce parc qui viennent de plus loin que les trois cantons les plus proches. Donc des gens qui viennent de plus loin. Et sur ce parc industriel, par exemple, il y a eu des politiques d'incitation fiscale pour les entreprises. Mais par exemple, les politiques il y a quasiment pas eu de politique de transport en commun. C'est un parc industriel qui regroupe plus d'une centaine d'établissements. Il y a un éclatement des horaires de travail, il y a une segmentation des statuts d'emploi. Et les seules politiques intercommunales de transport, c'est des politiques d'encouragement au covoiturage des dispositifs stop and go pour encadrer le stop. Donc, on voit très bien que les politiques d'aménagement, elles ont été en direction des entreprises, attirer des entreprises, mais très peu pour aider les salariés à se déplacer et avoir des solutions de transport en commun.
Et d'ailleurs, en termes d'infrastructure routière, ça c'est ce que j'ai vu dans un de vos articles, Olivier Razemont, vous dites que les pouvoirs publics persistent à construire toujours plus de routes, d'eurocades, de parkings, et que ça encourage les tentations de la maison
bien
à
sûr,
la campagne.
Bien sûr. Quand on fait le grand contournement ouest de Strasbourg, en prétendant que ça va fluidifier, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui vont se dire, tiens, puisque je vais mettre beaucoup moins de temps, je vais pouvoir habiter beaucoup plus loin. Et la plupart du temps, on pense pas au prix de l'essence. De temps en temps, on y pense, puis après ça passe, et puis la plupart des gens n'y pensent pas. Ils devraient ajouter au prix de leur maison le prix de l'essence. Donc on continue à le faire, et on continue à le faire avec les équipements publics. J'étais à Montbéliard le mois dernier, l'hôpital qui était en ville, à Montbéliard, et il y avait un autre hôpital à Belfort, ils ont pu être tous les deux regroupés entre les deux. Et donc l'hôpital de Montbéliard était accessible depuis Montbéliard en transport public avec un bus qui mettait 5 minutes et aujourd'hui il y a moins de bus et c'est plus loin et donc on encourage, et ça c'est l'agence régionale de santé qui le fait sans réfléchir, donc on continue à faire ça, donc c'est pour ça que je suis aussi en colère, c'est parce qu'effectivement il y a une sorte de on poursuit cet étalement urbain systématique pour le logement, vous l'avez dit, mais aussi pour l'industrie, ok, mais pour les équipements publics systématiquement les pôles emploi sont en périphérie, là les caisses primaires d'assurance maladie, etc., parfois c'est même les communautés d'agglomération. Alors il y a une nuance, moi je suis pas d'accord sur un point, pas d'accord, c'est pas que
pas d'accord. Je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes références. Et quand on regarde les statistiques de l'INSEE, on s'aperçoit que où vivent les gens qui ont des revenus les plus faibles, on s'aperçoit qu'ils vivent en ville. C'est-à-dire qu'en fait, les villes moyennes, et notamment les villes moyennes, c'est dans les métropoles assez différents, avec quand même des nuances. C'est pas Lyon, Strasbourg, Nantes, c'est différent. Mais quand on regarde Pau, quand on regarde Lorient, quand on regarde Montauban, etc., on s'aperçoit que dans ces agglomérations-là, l'endroit où le niveau de vie est le moins élevé, c'est en ville. C'est pas seulement d'ailleurs le centre-ville, c'est l'ensemble de la ville. Et l'endroit où le niveau de vie de l'agglomération est le plus élevé, c'est les communes alentour, les communes qui jouxtent exactement la ville-centre. Et après, plus loin, ça fait comme un volcan. Si vous voulez, en fait, en gros, à la campagne, on est plus pauvre, si on peut dire. Plus on s'approche de la ville, plus on est riche. Et puis, hop, on est en ville. Et là, on redescend.
Jean-Nicolas Fauchille.
Bon, merci pour cette analyse, Monsieur Rasmon, parce que sur la description que vous faites des lieux de pauvreté, je le partage totalement. Simplement, il me semble, ça vaut le coup quand même de revenir sur ce point de discussion avec Violaine Girard sur le subi choisi. J'entends bien hein, les incitations qui ont pu être faites sur l'accession à la propriété en périurbain. Il n'empêche, choisir d'être propriétaire dans le périurbain ou locataire en ville, c'est quand même un choix. On n'emmène pas de force une personne à devenir propriétaire. Donc les propriétaires
dans le périurbain, on le force peut-être pas, mais on l'incite en tout cas, non ?
On l'a accompagné pour ceux qui le souhaitaient, mais tout le monde n'est pas parti dans le périurbain. Sinon, on aurait tout le monde qui serait propriétaire dans le périurbain. C'est pas le cas. Donc c'est un choix de mode de vie tout de même. Dire qu'il est incité, c'est une chose. Dire qu'il est subi en est une autre complètement. Donc en termes de soutien après qu'on peut apporter dans les mobilités, c'est tout à fait différent si c'est choisi ou subi. Enfin, vous comprenez comme c'est important de savoir si à un moment c'est choisi ou subi. Quant à la question de savoir si effectivement des mobilités publiques autres que l'automobile doivent être développées, ben effectivement, ça c'est une vraie question. Parce que développer les libertés par plus de mobilité, ça on peut très bien l'entendre, mais la mobilité, c'est pas une évidence que ça doit être l'automobile. Voilà.
Mais, tout à fait. Mais est-ce que vous pensez, Jean-Nicolas Fauchy, qu'il y a peut-être aussi une résistance dans le fait d'aller vers d'autres formes de mobilité et que le mouvement qui est celui des Gilets jaunes traduit aussi et révèle aussi le fait que, comme le disait tout à l'heure Olivier Rasmon, finalement on est dans une société du tout voiture et que c'est extrêmement compliqué, y compris peut-être quand on a à disposition des offres alternatives, d'aller vers ces offres alternatives.
Alors il y a quand même un mythe qui subsiste, hein, c'est-à-dire l'automobile comme une espèce d'image absolue de la liberté. Mais la mobilité est un gage de liberté, c'est évident. Mais simplement, l'automobile n'a pas l'apanage des mobilités. Donc effectivement, il y a un changement de paradigme à avoir. Mais c'est pas se dire qu'on peut ne pas utiliser l'automobile ne veut pas dire qu'on ne va plus avoir de mobilité du tout. Et là, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, bien sûr. Mais la voiture comme absolue de la mobilité et de la liberté me paraît pas être juste, quoi.
C'est ce que disent les constructeurs automobiles hein, dans toutes leurs pubs quand même, et donc ça finit par marquer les gens.
D'ailleurs, je vais à nouveau citer un de vos articles, Olivier Rasmon, qui est consacré au train que vous avez signé. C'était au moment de la grève à la SNCF. Vous racontiez notamment vos expériences de déplacement en province. Bon, je parle de province, on peut appeler les territoires.
Un peu partout en France, en tout cas.
Dans les régions, voilà. Et où vous manifestiez votre surprise quasi systématique à chaque fois, c'est-à-dire de constater que on vous proposait toujours de venir vous chercher en voiture à la gare,
à la gare
de vous laisser prendre par exemple un bus, et ouais, puis de voir à quel point les gens qui habitent en région utilisent finalement assez peu le train pour des déplacements assez courts.
En fait, c'est au moment de la grève, des grèves parlées, etc. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'on pensait que toute cette grève était perturbée totalement le pays. En fait, ça perturbait bien sûr l'Île-de-France, bien sûr les grandes villes aussi, hein, les alentours de Lyon, de Bordeaux, de Nantes, et les gens qui prennent le TER tous les jours. Mais effectivement, ailleurs, non. Parce que quand effectivement je vais au moins une fois par semaine dans différents endroits, demain je vais à Bagnoles de l'Orne, dans l'Orne, si vous voulez tout savoir, et à chaque fois, moi je prends le train, et puis ensuite le car s'il faut, ou le TGV, puis le TER, etc. Et à chaque fois, de manière systématique, quelqu'un qui me proposent de venir me chercher à la gare TGV. Ça leur fait parfois une heure de route aller, une heure de route de retour. Je dis, mais attendez, mais j'ai pas besoin, il y a un TER. Ah oui, mais on sait jamais ce qui se passe. Donc, en fait, alors, une des raisons, c'est la SNCF qui est pas très performante dans ses correspondances, parce qu'il faut attendre un petit peu. Moi, si je dois attendre un peu, tant pis, dans la gare de Châteauroux, ben, c'est pas très grave, je vais lire quelque chose, ça me dérange pas. Mais c'est aussi une sorte de réflexe qui est que le TGV se prend comme l'avion. On va à la gare TGV, c'est un truc pour les, en gros, pour les Parisiens et pour les gens qui vont à Paris. Mais pour le reste, ben, on prend la voiture pour tout. Et ça m'a frappé parce qu'il y a des élus qui sont tout à fait capables le matin le maire va protester, va manifester devant la gare en disant quel scandale, la gare va être bientôt supprimée, les trains passeront plus. Et en fait, lui ne prend jamais le train. Et puis l'après-midi, il va faire du lobby pour avoir une rocade et une ouverture supplémentaire, enfin une sortie d'autoroute supplémentaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? La voiture est un objet extraordinaire. D'une pression du pied, on se propulse à plus de 100 km/h. Donc, en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont la possibilité, le choix entre des horaires de train dont ils pensent qu'ils sont un peu aléatoires, et puis la possibilité de cette pression du pied, ben, ils prennent la pression du pied. Donc si on multiplie, comme partout, comme on continue de le faire, les différentes rocades, etc., ben oui, il ne faut pas s'étonner que la voiture devienne indispensable pour tout.
Sauf que ce que dit, par exemple, mais il est loin d'être le seul, hein, le vice-président de l'association des maires ruraux, par rapport justement à l'augmentation du tarif des carburants, il dit nos administrés prennent cela comme la double ou la triple peine, on est totalement dépendant de la voiture pour des trajets domicile-travail, pour des trajets vers l'école. Est-ce qu'il y a un sentiment aussi d'isolement peut-être par rapport au reste de la société, Violaine Girard, qui pourrait aussi expliquer le succès qui semble être celui auquel est promis ce mouvement des Gilets jaunes?
Alors, sentiment d'isolement, moi, j'ai pas repéré ça dans l'enquête que j'ai menée. Il faudrait regarder des travaux sur les territoires. C'est sans doute plus fort dans les territoires ruraux, hein, le sentiment d'isolement ou la distance par rapport aux principaux lieux d'emploi ou par rapport à la distance par rapport aux grandes agglomérations. Ce qu'on peut dire.
Peut-être en tout cas le sentiment d'être des citoyens, si ce n'est de seconde zone, mais enfin en tout cas de subir des formes d'injustice par rapport à une population qui serait vue comme davantage privilégié parce que, par exemple, habitant les grandes agglomérations.
Alors, ça, c'est pareil. Je dirais qu'en tout cas, ce qui s'impose dans les représentations, notamment médiatiques du territoire, c'est une opposition. Il y a des clivages un peu binaires qui s'imposent dans les représentations. Est-ce que ces représentations sont partagées par l'ensemble de la population? Ça, il faudrait des enquêtes pour le dire. Mais en tout cas, on a souvent des visions binaires, les fractures, ou la France périphérique, et puis la France des bobos dans les centres-villes, etc. Donc, ces visions binaires, elles marchent très bien dans le discours politique. Dans différents discours politiques, où par exemple la France d'en haut, la France d'en bas, etc. Souvent on oppose comme ça. Voilà. Alors après, les sociologues sont là pour rappeler qu'il y a plus de complexité. La structure sociale en France, elle n'est pas réductible à deux grandes masses qu'on pourrait opposer. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans des enquêtes de terrain auprès donc de ménages populaires, donc j'ai dit, c'est pas les plus défavorisés, c'est des ménages qui accèdent à la propriété, mais y compris parmi ces fractions populaires qui sont pas parmi les plus démunis, qui sont relativement stables, il y a une défiance très très grande vis-à-vis du monde politique et un sentiment que les mesures politiques ne changeront pas la donne, ou en tout cas un sentiment que les principaux responsables politiques ne connaissent pas la vraie vie, on va dire entre guillemets, des vrais gens. Un sentiment comme ça de défiance, de scepticisme très grand vis-à-vis, à l'égard des mesures politiques. Il y a l'idée que, et par ailleurs c'est pas complètement faux sociologiquement, hein, il y a une distance sociale très grande. Les professionnels de la politique sont aujourd'hui de plus en plus souvent recrutés parmi les catégories supérieures, et donc des gens, je le dis, qui n'appartiennent pas aux groupes les plus démunis, les plus paupérisés, etc., partagent aujourd'hui assez largement une défiance vis-à-vis des principaux responsables politiques et des mesures qu'ils peuvent mettre en œuvre. C'est, à mon avis, sans avoir fait d'enquête précise là-dessus, ce qui peut nourrir comme ça des formes d'adhésion vis-à-vis de mobilisations qui sont lancées un peu sur les réseaux sociaux.
Mais est-ce que vous diriez, Violaine Girard, qu'il y a une dimension performative justement dans ces discours de clivage entre une France périphérique puis une France urbaine, je ne sais pas d'ailleurs avec quoi il faut l'opposer, la France périphérique,
enfin, la métropole des bobos à vélo contre le reste qui serait une vaste campagne. Non, mais on est dans un mythe complet, ça ne correspond pas du tout à la réalité.
Mais est-ce que c'est un mythe qui finit par devenir vrai parce qu'il est, il devient totalement, comment dire, accepté par une large partie de la population? Alors je ne sais pas s'il faut corréler les deux chiffres, mais en tout cas on voit que ce mouvement des Gilets jaunes, dans les enquêtes d'opinion, aujourd'hui, il est très largement soutenu. D'ailleurs, sans doute au-delà de ces clivages qu'on évoque ce soir.
Mmh. Oui, alors il y a sans doute des effets à ces discours-là. Il n'y a aucun discours qui enfin, voilà, ça véhicule des représentations sociales et ensuite ces représentations, elles sont intériorisées. C'est-à-dire qu'en termes d'identification ensuite, de sentiment d'appartenance, il y a bien sûr sans doute des discours. Ça doit renforcer, ça peut renforcer le sentiment d'être oublié ou d'être à distance des principaux responsables politiques ou des catégories supérieures. Moi, ce que j'ai vu dans mes enquêtes, c'est par exemple, alors c'est un sentiment, ce qu'on appelle une conscience sociale autour de trois pôles, c'est-à-dire que il y a un grand nombre de ménages des catégories populaires, mais qui s'en sortent, qui souhaitent se dissocier des plus démunis, des assistés ou des ménages qui sont stigmatisés dans un grand nombre de discours, ceux qui s'en sortent pas, ceux qui travaillent pas, etc. Mais ces ménages-là, ils ont aussi une forte conscience des distances sociales qui les opposent à des fractions sociales mieux dotées, à des classes supérieures, aux cadres, etc. Et en tout cas, ils savent très bien que c'est pas parce qu'ils sont propriétaires de leur pavillon qu'ils appartiennent aux catégories sociales aisées.
Jean-Nicolas Fauchille.
Oui, puisque vous parliez du rural, hein, là on ne parle plus du pied urbain, mais du rural isolé, je voudrais quand même vous dire, notre ouvrage Théorie de la justice spatiale s'est basé sur des entretiens dans toute l'Europe par dizaines, enfin on est allé voir ces personnes du rural isolé. Je ne tiens pas un discours qui est déconnecté de leurs paroles, je ne fais que leur transmettre. Et au fond, ils ne désirent pas les mêmes services qu'ils pourraient avoir dans une grande ville. Et ils laissent d'ailleurs ces services-là parce qu'ils considèrent que la ville, c'est pas du tout ce qu'ils veulent et qu'au fond, le prix à payer pour vivre en ville est tel que eux ils n'en veulent pas. Par contre, le discours qui apparaît de façon assez fort, hein, c'est de dire que ce qu'ils demandent, c'est un minimum garanti, au fond. Hein. Mais ils sont pas dans la comparaison entre les grandes villes ou les métropoles qui auraient tous les services, qui seraient très bien dotés, et eux qui seraient abandonnés. Ils ont tout à fait conscience qu'ils vivent dans un géotype ou un type d'habitat où ils n'auront pas l'équivalent en service de ce qu'ils peuvent avoir en ville. Ils l'acceptent et ils considèrent pas ça comme une injustice. C'est-à-dire que ce qu'ils considéraient comme une injustice, si c'est s'il n'y avait pas ce minimum garanti. Mais pour l'essentiel, ils l'ont.
Pour autant, Jean-Nicolas Fauchille, on voit bien à quel point ce discours-là peut avoir un succès important. Pourquoi est-ce que les politiques, alors s'il n'y a pas forcément cette perception justement d'une injustice liée à des inégalités territoriales, mais qui sont acceptées comme telles, pourquoi est-ce que les politiques iraient sur ce terrain-là plutôt que de dire, vous qui êtes dans le périurbain, vous qui êtes dans le monde rural, vous avez aussi un certain nombre d'avantages. Est-ce que c'est parce que c'est un discours qui est plus compliqué à faire passer que de dire aux gens, vous avez raison d'être dans le ressentiment?
C'est pas du tout la même chose politiquement à défendre, hein. Ça, je pense que c'est assez clair. Maintenant, il faut pas mettre tout ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, le sentiment, on va dire gilet jaune, mais on n'a pas du tout la même sociologie de personnes dans le rural isolé ou dans les communes du rural isolé que dans le périurbain. On n'a pas du tout le même. Vous le voyez d'ailleurs sur les cartes électorales, c'est flagrant, hein. Donc on leur parle pas de la même façon, mais leur revendications sont pas les mêmes. De ce point de vue-là, je les assemble pas dans le même mouvement qui serait opposé aux villes. Le mouvement d'opposition aux métropoles, qui, je vous le rappelle, comme l'a très bien dit Monsieur Razemont, concentre quand même l'essentiel de la pauvreté. Hein. C'est-à-dire ces gens-là, les riches de Paris ou d'ailleurs de Lyon, en fait, c'est eux qui concentrent quand même la pauvreté. C'est un discours qu'on entend essentiellement dans le périurbain. On l'entend beaucoup moins dans le rural isolé.
Olivier Razemont.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de types de territoires différents. Il y a une phrase dans un roman de Serge Joncourt qui dit, il imagine un personnage qui vient du Lot et qui s'installe à Paris et puis dit en fait, je pensais pas qu'il y avait tant de Paris différents entre le Paris des très riches, le Paris des bobos, le Paris des ouvriers qui habitent en périphérie de la ville, enfin en gros près du périphérique ou en proche banlieue, etc. Et c'est vrai pour chaque ville en plus. Quand moi je parle de la question du rapport à Paris, alors le rapport à Paris c'est quelque chose de tellement répandu aussi, hein, c'est détester Paris. Paris, c'est très naturel, c'est très normal et c'est presque un présupposé comme ça quand on discute un peu partout.
On déteste Paris et souvent aussi on vous plaint d'habiter à Paris.
Hein, aussi, bien sûr,
assez régulièrement. C'est-à-dire comment tu fais pour vivre dans cette ville?
Et moi, j'avoue toujours, je suis ravi de quitter Paris, ravi d'y revenir. Mais bon, et il y a aussi très vite, c'est plus Paris qui est en cause. Moi, je me souviens d'une discussion à Pau avec le premier adjoint de François Bayrou et très vite, moi, je lui dis voilà, quand même, Paris concentre les trucs. Qu'est-ce que vous pensez, le Grand Paris Express? Est-ce que vraiment c'est... Et il me dit, et là, il me parle de Bordeaux. Il ne me parle pas de Paris, parce que Paris, c'est loin, c'est autre chose. Il me parle de Bordeaux. Et pareil, avec un adjoint au maire d'Angers, je lui parle de ça, il me dit, ah non, mais c'est Nantes, le problème. Donc, en fait, on est dans le très, très vite, autour de chacune des grandes métropoles, on recrée le même sentiment, qui est très facile à, en fait, c'est pourquoi vous posez la question, pourquoi les politiques font ça? Mais c'est tellement facile. C'est tellement facile de se poser en défenseur des humiliés. Enfin, déjà, il n'y a rien de pire dans ce pays en particulier que de se sentir humilié. C'est tellement facile de dire, regardez, vous êtes, les autres vous ont pris tout, voilà. Et c'est de la faute. Vous êtes malheureux et c'est de la faute des autres. Ça, c'est un grand discours, ça marche très bien.
On n'a pas beaucoup parlé ce soir de fiscalité. C'est aussi, hein, évidemment, un des ressorts de ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a, Jean-Nicolas Fauchy, alors pour reprendre le sous-titre de votre ouvrage, des géographies de la justice ou de l'injustice fiscale, aujourd'hui en tout cas ressentie comme telle?
Bon, en termes de justice ou d'injustice, je vais essayer de pas me répéter, mais effectivement, il y a un malentendu sur qui souffre le plus au fond. Hein. Aujourd'hui, on a un discours sur les gilets jaunes. Vous n'êtes pas sans avoir raté l'actualité. Vous avez des bâtiments insalubres qui s'effondrent. Ils s'effondrent où ? Ils s'effondrent dans des grands centres-villes, voilà, qui concentrent la moitié des logements insalubres. Donc, effectivement, on a des focalisations qui sont liées à des personnes qui perdent quelque chose, et je comprends que ça qui perdent ou qui gagnent, mais on comprend que dès qu'il y a une modification à titre personnel, à titre de l'intérêt individuel, j'allais dire, ça fasse réagir. Ça veut absolument pas dire que ce soit les personnes qui soient dans la plus grande souffrance. Donc ça c'est une autre question. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a une surreprésentation des personnes qui ne sont pas les plus démunies, mais qui ont le sentiment de perdre quelque chose, et ceux qui sont les plus démunis, et qui finalement, pour eux, ça change pas grand-chose, au fond. Hein.
Et qui ont peut-être moins de capacité à se faire entendre.
Et ils se font jamais entendre. Mais jamais, faut dire les choses.
Violaine Girard, sur la question de la fiscalité, du ressentiment et de l'effet dynamiteur peut-être aussi que peut avoir cette question dans de telles mobilisations comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Alors moi, encore une fois, pareil, mon enquête, j'ai pas travaillé directement là-dessus. Par contre, ce qu'on peut souligner, c'est par exemple la question de visibilité différente suivant les formes d'intervention de l'État. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai eu affaire à des gens qui avaient, par exemple, bénéficié de prêts à taux aidés par l'État pour devenir propriétaire, mais qui ne vivaient pas ça comme une aide sociale, puisque d'ailleurs l'État lui-même différencie ses modes d'intervention. Et que dans les discours politiques, on va parler. Enfin, il y a eu on compte plus le nombre de responsables politiques qui ont stigmatisé les bénéficiaires des aides sociales, et que à l'inverse, n'ont jamais pointé du doigt que, enfin, un certain nombre de il y a des politiques, par exemple, de niche fiscale, c'est-à-dire de non-dépenses. Enfin, d'exonération fiscale accordée par l'État à, d'ailleurs, en grande partie à des catégories favorisées, hein, soit à des acteurs économiques, soit à des ménages aisés. Dans les politiques du logement, par exemple, c'est la politique Julie Pollard qui souligne ça. Hein, dans les politiques du logement, c'est par exemple 15 milliards par an au début des années 2010 d'exonération fiscale pour des politiques perçues comme étant d'intérêt général. C'est-à-dire que si vous construisez du locatif, de l'immobilier pardon, à but locatif, vous êtes exonéré d'impôts. Et donc ces politiques fiscales s'inscrivent dans la tendance actuelle de la diminution des dépenses de l'État. Donc l'État aide beaucoup moins à la construction de logements sociaux. On voit ensuite du logement social dit de fait, c'est-à-dire du logement social dans du logement privé, comme celui qui s'est effondré à Marseille. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais on le voit dans les d'autres travaux de sociologie ou de politistes. Et donc, à l'inverse, donc voilà, l'État va dépenser peu pour construire du logement social, proposer des niches fiscales et...
sans les valoriser. Quoi.
En tout cas, voilà, il y a différentes... La perception des modes d'intervention d'intervention de l'État est très différente et la visibilité même de ces modes d'intervention de l'État est très différente dans l'opinion publique.
Olivier Razbon, et ce sera la conclusion.
Moi, ce qui me frappe vraiment, la chose la plus importante, c'est qu'on a une sorte de méconnaissance du territoire, de la France, y compris par les décideurs politiques. C'est-à-dire on oppose systématiquement les grandes villes au reste et on s'aperçoit qu'en fait, quand on regarde qu'il y a des villes moyennes, des petites villes, il y a des périphéries de petites villes, il y a des régions touristiques dans lesquelles il y a énormément de monde à certaines périodes de l'année et pas du tout à d'autres. Et on fait une sorte on fait semblant de croire qu'il y aurait comme ça seulement deux catégories qui seraient donc les métropoles très riches et puis le reste. Et ça m'inquiète un petit peu parce que bon, qu'on puisse avoir cette perception-là quand on fait une petite vidéo sur Facebook pour protester contre le prix du gasoil, bon ok, mais quand on est décideur politique ou médiatique d'ailleurs aussi et qu'on a cette vision-là, là c'est plus inquiétant.
Voilà, et cette question des territoires, il y sera à nouveau question demain dans la grande table avec quelqu'un dont je suis presque étonné qu'on n'ait pas prononcé le nom ce soir, sauf erreur de ma part. En l'occurrence, Christophe Guilluy, qui sera l'invité d'Olivia Gesbert et qui sera notamment en discussion d'ailleurs avec le prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu. Merci beaucoup, en tout cas tous les trois, d'avoir participé à cette discussion. Violaine Girard, Olivier Razbon et Jean-Nicolas Fauchy, merci pour la liaison, enfin plus que la liaison, pour le duplex de ce soir. Merci à toute l'équipe du Grain et dans un instant nous allons retrouver les arts plastiques avec Arnaud Laporte et la dispute.